en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de la séance publique de l'Académie des Beaux-Arts du 6 février 2013, consacrée à Stravinsky, par l'éditeur de musique et écrivain Mario Bois. L'éditeur de Xenakis et de Laurent Petit-Girard. À ce jour, Mario Bois a écrit près de 18 livres, entre autres des souvenirs sur Stravinsky, sur Nourieff, des entretiens avec Xenakis, son livre « Flamenco » a reçu le prix de la Maison de la Poésie à Paris et le prix des Muses. Son livre « La trilogie de Séville, Don Juan, Figaro, Carmen » a reçu le prix Bernier de l'Institut de France. Il évoque dans cette séance Igor Stravinsky, qu'il a bien connu, dont il nous rappelle la vie dans cette conférence par de multiples anecdotes, un portrait vivant de celui qui a révolutionné la musique avec son Sacre du printemps. Retrouvons Mario Bois pour sa communication intitulée « Près de Stravinsky ».
Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'inviter encore une fois à m'adresser à vous dans ce lieu prestigieux. A priori, je l'avoue, je n'étais pas très chaud parce que j'ai le trac. Mais on m'a bien dit que je pouvais choisir mon sujet, alors allons-y. Ainsi donc, nous allons parler de Diaghilev. Eh bien non, ce n'est pas une erreur. C'est par là que ça commence. Il naît en 1872, son père est officier à Saint-Pétersbourg. La famille est riche. Le jeune Serge Diaghilev n'a qu'une passion, les arts plastiques, la peinture, la gravure, le dessin. Intelligent, cultivé, il a tout un groupe d'amis, des jeunes artistes, qui se réunissent chez l'un ou chez l'autre, ils exposent leurs toiles, ils parlent d'art, ou bien aussi ils jouent leurs compositions, ou les œuvres récentes de compositeurs étrangers. Français surtout, Debussy, Ducas, le jeune Ravel. En 1899, à 27 ans, Serge Diaghilev fonde une revue, Le Monde de l'Art, et il expose pour la première fois en Russie les impressionnistes français. On parle beaucoup français à Saint-Pétersbourg à cette époque. D'autres expositions viendront, montrant pour la première fois en Russie beaucoup d'artistes étrangers modernes, les pré-raphaélites anglais, l'art nouveau viennois, etc. Et ce petit jeune Serge Diaghilev est nommé conseiller à l'Opéra Saint-Pétersbourg, pas pour longtemps, hein, mais il entendra les opéras récents des compositeurs russes, Borodine, Glazounov, Rimsky-Korsakov, Tchaïkovski, et plus anciens, les Glinka et Moussorgski. Un jour, dans un de ses salons, il entend une œuvre de 5 minutes, scherzo fantastique, pour petit orchestre, d'un tout jeune compositeur qui se nomme Igor Stravinsky. Ça lui plaît. Dès 1903, à deux reprises, le jeune Diaghilev va traverser l'Europe. Il découvre Rome, Berlin, Vienne et Paris. Là, c'est l'éblouissement total. Il semble qu'on est au centre du monde. Dans les rues, l'automobile commence à remplacer les attelages. La nuit, les trottoirs sont tous illuminés. L'époque est belle, c'est la belle époque. Dans le monde de l'art, c'est aussi l'ébullition. Lautrec a croqué les visages au Moulin Rouge et aussi les scènes de cirque. Et un certain Picasso, jeune bohème à Montmartre, peint des saltimbanques roses et bleues. Dans les beaux-arts, les mouvements nouveaux se bousculent l'un après l'autre. Tout se termine en isme. Symbolisme, futurisme, fauvisme, négrisme, cubisme, etc. Surréalisme, c'est plus tard. De retour en Russie, Diaghilev est inquiet. Son pays ne va pas bien. La guerre russo-japonaise se termine par une défaite. Et à l'intérieur, les troubles sociaux sont matés dans le sang du tristement célèbre Dimanche Rouge. Soudain, il vient à ce jeune Diaghilev une idée simple et géniale. Il en aura d'autres. Au fond, il a cessé de faire découvrir aux Russes les artistes des quatre coins de l'Europe. Bon, et si on faisait tout le contraire? En voyageant, il a constaté que les artistes russes étaient pratiquement inconnus en Occident. Seul Tchaïkovski avait franchi les frontières. Diaghilev se dit « Et si je crée une troupe d'artistes russes qui se produirait à l'étranger ? Une troupe d'opéra, par exemple. Et où commencer ? À Paris, bien sûr. » Et il construit sa compagnie et elle arrive à Paris en avril 1908. Et voilà que le 19 mai, au théâtre du Châtelet, le rideau se lève sur un opéra magistral que Paris découvre, Boris Godounov, de Moussorgski. Tout est russe, la musique, le livret de Pouchkine, les décors et costumes, les chanteurs, avec dans le rôle titre un certain Fedor Tchaliapin. C'est un triomphe inimaginable. En quelques jours, en quelques représentations, Paris se met à la mode russe. Les grands couturiers, Poiret, Doucet, habillent le grand monde à la russe. Des cabarets russes ouvrent leurs portes pour ces nuits de princes dont nous parlera Joseph Kessel. Partout, c'est la folie pour l'orientalisme russe. Retour à Saint-Pétersbourg, Diaghilev réfléchit. Après ces quelques semaines parisiennes, après ce triomphe russe, que faire ? Revenir à Paris, oui. Pour une autre saison, oui. Une autre saison russe, oui. Au printemps prochain, oui. Mais pour y montrer quoi ? Encore des opéras ? Il en fera deux ou trois. Mais Diaghilev a une autre idée encore géniale. Il a constaté qu'à Paris, qui fut pourtant le lieu où naquit le ballet romantique dans les années 1830, à Paris, la danse, au théâtre, est devenue un parent pauvre. C'est la médiocrité. Or, tout au contraire, en Russie, grâce à un certain Marius Petipa, un Français, qui y était arrivé en 1847. Il y avait créé 200 ballets, et il vivait toujours. Il allait mourir en 1910 à 88 ans. Grâce à Petipa, une grande tradition du ballet académique s'était établie en Russie avec un public populaire passionné. Diaghilev se dit autre chose. Au fond, quelle est l'œuvre théâtrale qui réunit les quatre arts que j'aime le plus ? Peinture, décor, costume, musique, sujet littéraire et action gestuelle. C'est le ballet. Alors, allons à Paris avec une compagnie de ballet et non plus d'opéra. Et créons là des soirées entières de ballet. Et arrive en 1909 la compagnie des ballets russes au théâtre du Châtelet, avec le soir du 18 mai, la création de trois grands ballets, Danse Polovzienne, Morodine, le pavillon d'armée de Tcherepnin, le festin avec Glazounov, Rimsky. Bon. Les trois chorégraphies sont du grand Mikhaïl Fokine. Parmi les solistes, on voit pour la première fois un danseur de 18 ans qui s'appelle Vaslav Nijinsky. Triomphe, c'est encore la folie russe. Et quelques jours plus tard, naissent encore trois autres ballets russes. Les solistes s'appellent Anna Pavlova, Karsavina, Ida Rubinstein et Nijinsky, bien sûr, dont les bonds prodigieux et la grâce angélique font de lui une sorte de demi-dieu. On rentre à Saint-Pétersbourg. On pense aussitôt à la prochaine saison, qui sera encore parisienne. Diaghilev a près de lui un compositeur russe très doué, Anton Liadov. C'est un original très sympathique. Il collectionne les vieilles éditions de contes russes. Diaghilev lui demande une musique et lui dit « Vous avez un sujet à me proposer ?»« Oui, un conte ancien, L'oiseau de feu. » Alors, d'accord, mais Liadov est assez paresseux. Le temps passe et rien ne vient. Diaghilev s'impatiente. « Alors, où en êtes-vous ? » Mais c'est en cours, j'ai déjà acheté le papier à musique. Bref, il faut changer de compositeur. Et vite, qui peut faire ça rapidement ? Et voir que Diaghilev se souvient de ce garçon, Igor Stravinsky, dont il avait entendu le petit scherzo. On va garder le sujet, l'oiseau de feu, et ce jeune Stravinsky, qui est maintenant l'élève du grand Rimsky-Korsakov. Ce jeune Stravinsky va vite écrire la musique. Fin avril 1910, la troupe arrive à Paris, la troupe de ballet. Le jeune Stravinsky en fait partie. Intimidé, sa partition sous le bras, il découvre le monde de la danse, les coulisses, les répétitions. C'est que cette fois, on est à l'Opéra de Paris. Et les ballets russes, c'est 70 danseurs russes. Igor découvre aussi Paris, la grande ville qui l'éblouit. 25 juin de cette année 1910, c'est la première de l'Oiseau de Feu. Chorégraphie Fokine. Grand succès. La critique enthousiaste soulignera aussi, en particulier, la qualité de la musique de ce jeune inconnu. Retour à Saint-Pétersbourg. Diaghilev, fier de sa trouvaille, demande à Igor Stravinsky. Alors, pour ma saison prochaine, vous pensez à quelque chose ? Non. J'ai commencé à écrire une sorte de concerto pour piano. Que voulez-vous que je fasse avec ça ? Pourtant, Diaghilev écoute la partition qui n'en est qu'à la moitié, mais qui est pleine de vie, de rythme et de malice. Et il a une idée saugrenue. Si on réduisait le rôle du piano en développant l'orchestre, on pourrait l'adapter à une histoire populaire russe, naïve, celle d'un personnage de très tôt de foire, le pantin Petrouchka. Ça fera une sorte de commedia dell'arte russe. Stravinsky accepte, il a besoin d'argent. Je ne vous ai pas dit qu'à 23 ans, il s'est marié avec sa cousine Germaine et qu'il a déjà deux fils et que sa jeune femme vient de tomber malade. Diaghilev veut son Petrouchka à la date donnée. Il faut isoler son compositeur pour qu'il travaille vite et bien. Il l'envoie dans le sud de la France, dans un petit hôtel à Beaulieu-sur-Mer. Là, Stravinsky écrit tout seul. Un jour, par la fenêtre ouverte, il entend un vieux bonhomme qui chante avec son orgue de barbarie sur le trottoir. Elle avait une jambe de bois, et pour que ça ne se voie pas, elle avait mis par en dessous une rondelle de caoutchouc. C'est drôle, cette vieille rengaine. Stravinsky décide de l'inclure dans sa musique, et voici ce que ça donnera dans la partition définitive de Petrouchka. Écoutons une minute. Le 13 juin 1911, au Châtelet à Paris, première de Petrouchka. Grand, grand succès. Nijinsky est un pantin prodigieux et Stravinsky devient une vedette. Alors, Diaghilev décide de ne plus se limiter à Paris et donne des spectacles à Monte-Carlo et à Londres. Mais on arrive en 1912, nouveau printemps russe à Paris. Pour la première fois, Diaghilev demande une musique à un Français, Reynaldo Hahn, qui est l'amant d'un certain Marcel Proust. Si nous donnons ce détail, c'est parce qu'il est temps de parler de ce qui anime Diaghilev et commence à le dominer, son homosexualité. Voilà des mois qu'il a mis dans son lit l'archange Nijinsky. D'ailleurs, il ne s'en cache pas, il l'affiche, et le tout Paris mondain, hypocrite peut-être, mais puritain, commence à se scandaliser. Mais Diaghilev aime le scandale. Il est aussi, bourdonnant autour de la troupe comme la mouche du coche, un garçon de 21 ans, extrêmement brillant, qui s'appelle Jean Cocteau, lui aussi homosexuel, qui lui aussi aime le scandale, et il trouve ça très amusant. Nous sommes en 1912. Diaghilev a encore une idée. Il va faire de Nijinsky un chorégraphe. Il lui donne une ancienne musique du Français Debussy, l'après-midi d'un faune, 12 minutes. Le personnage sera bestial, un satyre de profil, à la grecque, entouré de 6 nymphes. 29 mai 1912, au Châtelet, première chorégraphie de Nijinsky, qui danse aussi. Il termine à plat ventre, couché sur le voile d'une nymphe, remuant les hanches dans une attitude parfaitement masturbatoire. Nous allons voir cela, bien qu'il remue davantage dans la réalité. Évidemment, dans la salle, c'est le scandale. Diaghilev dit « C'est tout à fait ce que je voulais ». Cocteau jubile. 1913, nouveau printemps russe à Paris, c'est le sixième. Peu à peu, Diaghilev éloigne Fokine. Ils s'en séparent. L'important, c'est Nijinsky, chorégraphe, qui, le 15 mai, crée « Jeu de Debussy ». Le sujet est sans aucun intérêt, une partie de tennis, c'est un flop complet. Debussy est furieux, d'autant qu'il sait ce qui se prépare. Il vient d'assister à une répétition du ballet qu'on va donner dans 15 jours, le sac du printemps, chorégraphie de Nijinsky. Sur cette chose importante, nous y reviendrons. Passons à 1914, la guerre gronde. Diaghilev ne va plus pouvoir venir à Paris. Il va falloir danser ailleurs, en Amérique par exemple. Nijinsky, pour souffler un peu, s'embarque pour les Amériques seul sur le paquebot. La traversée du Dura, 16 jours. À bord, il rencontre une femme russe, Romola. Il en tombe éperdument amoureux. Dès l'arrivée, il l'épouse. 48 heures plus tard, il reçoit une dépêche. « Tu ne fais plus partie de la troupe » signée Diaghilev. C'est le choc, la dépression, et puis peu à peu, définitive, la folie. Nijinsky a 23 ans. Flamme fulgurante, il aura dansé 5 ans et fait 3 chorégraphies, c'est tout. Pendant la guerre, les ballets russes, réduits en nombre, dansent à New York, en Espagne, en Italie. Et puis, après 1918, tout repart de plus belle, la compagnie étant fixée à Monte-Carlo. Des dizaines de créations seront données, surtout à Paris et à Londres. Les artistes russes sont plus rares. Diaghilev fait maintenant appel à des occidentaux, des jeunes musiciens français, Satie, Poulenc, Auric, Millau, mais aussi Faya et Prokofiev. Et aussi, pour les décors, à des peintres nouveaux qui vivent à Paris et que Diaghilev révèle. Ces jeunes peintres s'appellent Derain, Matisse, Miro, Braque, Rouault, de Quirico, Picasso. 1929, Diaghilev est fatigué. Il se repose à Venise. Le matin du 29 août, il fait chaud. On le trouve dans son lit, mort. Il a 57 ans. En 20 ans, 71 ballets. De 1909 à 29, il aura fait naître 71 ballets en 20 ans. Bravo, monsieur, chapeau et merci. Revenons maintenant en Russie en 1882, dans une famille aisée, les Stravinsky, naît un garçon qu'on appelle Igor. Le père est un grand chanteur soliste à l'Opéra de Saint-Pétersbourg. La mère joue fort bien du piano. Le petit Igor apprend la musique. On l'amène à l'opéra et au concert, entendre son père. Il n'aime que la musique. Ce qui l'attire, le fascine, c'est ce cercle de jeunes intellectuels que Serge Diaghilev rassemble autour de lui. Devant ses camarades, Igor joue ses premières compositions, quelques pièces pour piano, des mélodies. Nous sommes en 1905-6. Igor a 24 ans. Jusqu'au jour où, je vous en ai parlé, Diaghilev lui commande L'Oiseau de Feu, 1910, et puis Petrouchka, 1912, et puis maintenant Le Sac du Printemps, 1913. Trois chefs-d'œuvre en 3 ans. Formidable trilogie. Et Igor n'a pas 30 ans. Parlons du sacre. Nous revenons au début de 1912. Diaghilev dit à Stravinsky, après le succès de Petrouchka, « Nous allons faire encore un troisième ballet ensemble. Avez-vous une idée ?»« Oui, » dit Stravinsky. « Depuis un certain temps, avec Röhrich, Röhrich, c'est l'un des 3 grands décorateurs de Diaghilev, mais il est aussi ethnologue. Avec Röhrich, nous avons pensé à quelque chose, un rituel ancien de la Russie païenne. » Diaghilev tombe du ciel. « Qu'est-ce que vous dites ?» Voilà, nous sommes il y a 1000 ans, dans la steppe russe, c'est l'arrivée du printemps. un groupe de jeunes filles élise l'une d'elles, qui doit alors, au centre d'un cercle de vieux sages, danser jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort, afin que naisse le printemps. Eh bien, dites-moi. Oui, j'y travaille, c'est assez avancé. Et Stravinsky part pour la Suisse rejoindre ses enfants et sa femme, qui est maintenant atteinte de tuberculose. Quelques semaines plus tard, Diaghilev arrive en Suisse. « Jouez-moi votre sacre pour voir ce qu'il en est. » Stravinsky se met au piano. Et c'est une avalanche de fragments mélodiques sans cesse coupés de rythmes syncopés. Diaghilev finit par interrompre. « Est-ce que ça va durer encore longtemps ?» Alors Stravinsky répond à son patron. « Ça durera le temps qu'il faudra. » C'est authentique, hein, ces choses. Diaghilev sent pourtant qu'il y a là une force énorme, une musique inouïe dans le vrai sens du terme. Mais l'œuvre ne fait que 22 minutes. C'est trop court. Il faut que ça dure plus longtemps et Stravinsky doit se remettre au travail. Ceci est important parce que c'est grâce à Diaghilev que le sacre définitif durera 33 minutes. La partition est donc confiée à Nijinsky pour la chorégraphie. Stravinsky n'aime pas beaucoup le travail chorégraphique de Nijinsky. Et à la première répétition, Stravinsky est stupéfait de découvrir, dès le début du ballet, les danseurs s'agitant en sauts, soubresauts, piétinements, bras cassés, genoux pointus, pieds en dedans. Il y aura 120 répétitions. Le ballet sera donné dans un nouveau théâtre qui vient d'ouvrir ses portes, le théâtre des Champs-Élysées. C'est sur cette scène que se passe le dernier mois de répétition. La musique aussi sent la poudre. Certains professionnels viennent voir. Saint-Saëns est révolté, Debussy désorienté. Le jeune Cocteau est ravi et se répand dans tout Paris. Vous allez voir ce que vous allez voir. Déjà, les conservateurs se révoltent. Les mondains pensent pourquoi pas. Les snobs s'enthousiasment. Et les jeunes milieux d'avant-garde crient déjà au génie. Et arrive le soir du 28 mai 1913... La danse du sacre commence et tous les témoins le rapporteront. Aussitôt, en moins de 2 minutes, la salle éclate, c'est le tumulte, les huées, les acclamations et entre les spectateurs à l'orchestre, les insultes, les coups même. On m'avait dit que cela avait été filmé. Pendant 20 ans, j'y ai pas cru. Un film en 1913, alors que le cinéma venait de naître 15 ans plus tôt. Or, incroyable. Mais vrai, je l'ai retrouvé grâce à Frédéric Mitterrand. J'avais au fond d'un placard, j'ai retrouvé une petite cassette, une émission de Frédéric Mitterrand d'il y a 30 ans. Et il y avait ces 40 secondes qui sont un trésor. Dans la salle, le tohu-bohu est énorme. Les injures fusent. Non au massacre du printemps. Dehors les putains du 16e. Vive l'art nouveau. De sa loge, la comtesse de Pourtalès, le diadème de travers, s'écrit « C'est la première fois depuis 60 ans qu'on me manque de respect. » Ce soir de la première, Debussy n'est pas venu. Saint-Saëns quitte ostensiblement la salle. Dans la coulisse, debout sur une chaise, Nijinsky crie, marquant la mesure, parce que sur la scène, les danseurs n'entendent rien du tout. Ainsi donc, ce soir-là, on n'a pas entendu la musique. Alors, soyons sérieux et disons la création du sacre a été un scandale chorégraphique, oui, mais certainement pas un scandale musical. De plus, on ne dit jamais que ce soir-là, il y avait 4 ballets au programme. Le premier était les Sylphides de Chopin, après ce fut le sacre, après quoi ce fut l'entracte, et en deuxième partie fut dansé le spectre de la rose, et enfin les danses polovziennes. Donc quand même tout cela calma tout le monde. Entre parenthèses, le sacre de Nijinsky ne sera représenté que 7 fois. 3 à Paris, 4 à Londres, et puis il disparut. Mais, dans les années 80, aux États-Unis, le Jeffrey Ballet fit un travail de recherche formidable et s'appuyant sur tous les éléments historiques, nous a donné un sacre de Nijinsky reconstitué aussi fidèlement que possible. Donc, imaginez que vous êtes le soir du 28 mai 1913 dans votre fauteuil d'orchestre et que, juste après les Sylphides de Chopin en tutu, vous découvrez ça. tenu à ce que vous ayez ces 4 minutes impressionnantes qui nous remettent en fin mai 1913. Quelques mois plus tard, on va jouer le Sacre en concert au Casino de Paris. C'est un énorme triomphe. Stravinsky est rassuré. Mais sait-il vraiment qu'il a écrit là l'une des œuvres les plus novatrices et les plus puissantes de toute l'histoire de la musique? Cette déferlante, ces pulsions, convulsions, éclairs, gémissements, éclatements, cette force toute de muscles et de nerfs, cette musique nouvelle venant du fond des âges, sans précédent, venant d'on ne sait où. Je crois qu'on peut dire ceci. Après Beethoven, la symphonie n'est plus comme avant. Après Wagner, l'opéra n'est plus comme avant. Après le Sacre de Stravinsky, toute la musique d'orchestre, ne sera plus comme avant. De nos jours, écoutez les musiques de films, d'horreur, d'angoisse, d'action. Tous se souviennent du Sacre, jusqu'à en copier des minutes entières. La guerre de 14 éclate, Stravinsky se réfugie en Suisse auprès de sa femme, malade, et de ses enfants, qui sont maintenant 4. Il y restera 4 ans, il écrira l'histoire du soldat Renard, il préparera un autre ballet que lui a commandé Diaghilev, à partir de thèmes de Pergolèse, Pulcinella, petit cousin italien du pantin Petrushka. Mais en 1917 se produit en Russie un événement gravissime, la révolution d'octobre. Toute propriété sur les biens familiaux disparaît. Stravinsky et les siens, sans argent, se trouvent en exil, peut-être pour toujours. 1918, c'est le retour à Paris où tout recommence. Il y aura encore 3 autres ballets pour Diaghilev. Après Pulcinella, c'est Noce, un chef-d'œuvre qui célèbre une noce à l'ancienne dans la campagne russe où Stravinsky se souvient des pauvres gens qu'il fréquentait dans les villages dans son enfance. Viennent alors les 18 années parisiennes au cours desquelles sont composées les grandes œuvres pour le concert et 2 opéras. Il y a des chefs-d'œuvre, la symphonie des psaumes, le concerto pour deux pianos, la symphonie en 3 mouvements. Les chefs-d'œuvre alternent avec des œuvres moins fortes, évidemment. En marge aussi, il écrit des petites choses fantaisistes. Un tango, une polka pour des éléphants de cirque, une orchestration de l'hymne national américain. Et certains commencent à le considérer comme un touche-à-tout, donnant dans la coquetterie. Pourtant, dès que sa musique commence, elle ne ressemble à aucune autre. Et puis, il y a alors une chose importante, sa découverte du jazz. En 1919, le chef d'orchestre Ansermet, revenant de New York, lui rapporte les tout premiers enregistrements de jazz. Le jazz prend à peine forme et Stravinsky compose aussitôt un ragtime. Nous aurons la couverture par Picasso de la partition. Et Stravinsky va écrire aussi un concerto de jazz pour Woody Herman, etc. Enfin, le jazz l'a beaucoup marqué. En ce début des années 20 à Paris, derrière sa façade mondaine, Stravinsky se sent seul. En Suisse, où il se rend souvent, sa femme est de plus en plus malade. On a prêté à Stravinsky des aventures, elles sont très rares. Par exemple, avec Coco Chanel, si elle est vraie, elle fut courte. En 1924, Diaghilev lui présente une femme russe, belle et sensuelle, Vera de Bossé, qui a été une vedette du cinéma muet et s'occupe maintenant de l'atelier de costumes de la troupe. Stravinsky est religieux, puritain, et il finit par céder, et Vera sera désormais sa compagne. Il ne délaissera jamais sa femme, et s'en occupera jusqu'à sa mort en 1939, lorsqu'elle disparaît à 48 ans. Il attendra alors 2 ans avant d'épouser Vera. La gloire de Stravinsky grandit à l'étranger, mais à Paris, il se sent sous-estimé. Au milieu des compositeurs parisiens, Poulenc, Corris, Sauguet et Millau, il n'est que l'un d'eux. Il souhaiterait la Légion d'honneur, il ne l'aura pas. En 1936, il se présente à l'Institut de France, on lui préfère Florent Schmitt. 1939, la guerre menace et Stravinsky part pour les États-Unis, où il s'installe à Hollywood, sur un bungalow assez modeste. Oh, il n'est pas venu à Hollywood pour des commandes de cinéma. Il n'écrira jamais de musique de film. Mais aussitôt, le très célèbre Walt Disney lui demande le droit d'utiliser la musique du Sacre pour son prochain film, Fantasia. Stravinsky accepte parce qu'il a besoin de ce gros chèque. Mais il méprisera toujours ce que Disney a fait de sa musique dans ce film. J'ai retrouvé ce portrait très rare très peu connu de Disney, le portrait de Stravinsky par Walt Disney. En Amérique, Stravinsky rencontre du monde. Gershwin, par exemple, qu'il estimait. Gershwin, qui était un compositeur et pianiste de concert, admirait tant Stravinsky. Un jour, il lui dit « Maître, j'aimerais que vous me donniez des leçons. Combien gagnez-vous par concert ?»« Oh, 500 euros. » »« Alors c'est vous qui devez me donner des leçons. » En Amérique, il y avait un pianiste célèbre, Van Cliburn, très riche et très prétentieux. Il rencontre Stravinsky. « Oh, maître, savez-vous ce qui se passe ? C'est extraordinaire. Je joue votre sonate. » Et Stravinsky répond très timidement, « Mais moi aussi, monsieur. » C'était un sacré comédien. Mais dans leur bungalow, loin de l'Europe, disons-le, le couple Stravinsky s'ennuie. Elle peint, elle exposera de temps en temps. Lui, il joue chaque jour aux échecs chinois et il compose, mais le génie n'est plus toujours là. À 15 kilomètres de là habite un vieux compositeur qui s'appelle Arnold Schoenberg. Il avait inventé au début du siècle un système de composition basé sur la série des 12 sons. Stravinsky déteste cette écriture systématique sérielle et refusera toujours de rencontrer Schoenberg. Il l'avait rencontré une fois en 1920 à Berlin, mais il habite pas loin, je ne veux pas le voir. Pourtant, au début des années 50, un tout jeune intellectuel américain, Robert Kraft, frappe à la porte du bungalow. Ce Robert Kraft est intelligent, très informé de tout ce qui se passe dans le monde entier de la musique. Stravinsky l'écoute, de plus en plus intéressé. Bientôt, Bob Kraft est là tous les jours et finit par s'installer chez les Stravinsky, devenant avec le temps comme un fils adoptif. Au cours de ces années, Kraft recueillera les souvenirs et commentaires du maître et les publiera en 6 volumes successifs. Bob Kraft aussi établit les contacts internationaux qui permettent à Stravinsky, de plus en plus souvent, de diriger ses œuvres au concert à travers le monde, et puis aussi pour le disque, et de recevoir des commandes de grands festivals, en particulier de celui de Venise dont Stravinsky deviendra la vedette pendant 10 ans. L'argent afflue, c'est nouveau. Mais Kraft avait fait ses premiers pas chez Schoenberg. Et, incroyable mais vrai, il commence à retourner Stravinsky et année après année, il finit par le convertir complètement à la composition dodécaphonique. Kraft n'est pas le seul responsable de cela. Dans les années 50, surtout en France et en Allemagne, la jeune avant-garde bataille, convaincue que le sériel est la musique de l'avenir. On peut en douter aujourd'hui. Au diable les vieilles barbes qui nous bassinent au concert avec leur vieillerie. Il y a là le jeune et brillant Boulez qui occupe la place de porte-drapeau. En 1952, Boulez écrit « Toute musique qui n'a pas ressenti la nécessité du langage dodécaphonique est inutile ». Et il faut dire que Stravinsky se sent vieillir. Il sent qu'il veut que sa musique rajeunisse. Et peu à peu, jusqu'à la fin, il va nous donner une succession d'œuvres sérielles, dont 3 oratorios bibliques. Cette conversion va scandaliser la majorité des compositeurs dans le monde. Encore un scandale Stravinsky, mais un peu à contresens. Comment ? Celui qui avait été pendant 40 ans le plus grand inventeur de musique du siècle, le maître, le guide, le pionnier, devenait un suiveur. Lui qui nous avait conduit à travers l'exubérance de la jungle, le voilà maintenant dans les sables du désert. Partout, la grande majorité de la critique est dure, impitoyable. Par exemple, à Paris, la critique de Bernard Gavotti, qui était terrible. Alors Stravinsky l'appela Gavnoti, parce qu'en russe, Gavno veut dire crotte. Le dimanche, Gavotti tenait l'orgue à l'église des Invalides, et il jouait pas très bien, il jouait mal. Stravinsky dit, ce n'est pas l'organiste des Invalides, c'est l'invalide des organistes. En Amérique, un compositeur d'origine russe, Vernon Duke, Dukelski s'appelait, écrivait des articles effroyables sur le nouveau Stravinsky. Par ailleurs, ce compositeur composait des chansons pour Broadway qui devenaient des succès. April in Paris, Autumn in New York, Stravinsky dit, il paraît qu'il est en train d'écrire Christmas in Caracas. Dès lors, Stravinsky et Vera, toujours domiciliés à Hollywood, se mettent à voyager sans cesse. le plus illustre des compositeurs vivants, évidemment, est invité partout pour diriger, pour des hommages, des rencontres prestigieuses, John Kennedy, le pape, etc. Mais j'y pense, peut-être que tout ce discours biographique commence à vous ennuyer. Vous préféreriez, sans doute, qu'on vous parle d'un Stravinsky bien vivant, un Stravinsky que j'ai eu le bonheur de connaître. Mais alors, je vais être obligé de vous parler de moi. C'est inévitable, quand on s'approche d'un si grand personnage qui vit sans cesse sous le feu des projecteurs, on est bien obligé d'entrer soi-même dans le cercle de lumière. Je l'ai rencontré souvent, très souvent, au cours des 12 dernières années de sa vie, de 1959 à 71, date à laquelle il mourut à 89 ans. Après chaque rencontre, le soir, je notais les choses entendues, mais une partie m'a échappé, parce qu'il m'arrivait parfois de rentrer ivre et de ne rien noter du tout. 1959, j'ai 26 ans. Je viens d'être engagé pour diriger la petite branche française du grand éditeur londonien Booz & Hawkes, qui publiait Stravinsky, Bartok, Prokofiev, Rachmaninov. Trois semaines après, mon directeur appelle. Monsieur et Madame Stravinsky arrivent à Paris. Ils seront à l'hôtel Berkeley, au rond-point des Champs-Élysées. Vous devez aller les voir demain à 15h pour vous présenter. Nous sommes le 15 septembre 59. Il fait un temps superbe. J'arrive en avance, mort de trac. Je fais les 100 pas sur le trottoir. 15h pile, je vois le concierge. Chambre 218, montez. Dans le couloir, la porte est entrouverte. On entend deux voix fortes qui s'enguirlandent en russe. Je frappe doucement, on vient, c'est lui. Il marche lentement, s'appuyant sur sa canne. Il a 77 ans. Il me présente sa femme, qui répond à peine et disparaît dans sa chambre. Nous nous asseyons. Il porte de grosses lunettes, il tient sa canne entre ses jambes. Il parle lentement, poliment, un très bon français, avec un léger accent. Il demande « Quelle est votre formation ?»« J'ai fait une école de commerce. » Il regarde ses pieds. « Et que fait monsieur votre père ?»« Il est contrôleur des contributions directes. » Il regarde ses pieds. J'ajoute « Mais il joue du violon. » Et chaque dimanche à la maison avec des amis, il joue des quatuors de Mozart et de Schubert. Ah, il relève la tête là. Il dit « On ne donne pas mes ballets à l'Opéra de Paris. Pourquoi ?» Le nouveau directeur est monsieur Auric. Demandez-lui, est-ce qu'il connaît mon nom ? On parle encore un peu, comme ça, poliment. Il dit, je vous prie d'avoir la gentillesse de m'apporter de l'argent. Oui, maître. Quand ? Tout de suite. Il a un petit sourire. Il est temps de m'en aller. Il se lève difficilement de son fauteuil, agrippé à sa canne, et me raccompagne jusqu'à la porte. Je retrouve le trottoir. Ouf, ça y est, l'examen de passage est terminé. Le soir même, mon directeur de Londres appelle. Eh bien, on ne peut pas dire que ce soit un succès, surtout avec madame. Rentré chez moi, je pensais, deux choses m'avaient frappé. D'abord, il était laid, et ses vers de Victor Hugo me revinrent. Il était laid, les traits austères, la main plus rude que le gant. Mais surtout, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il était petit. Je me disais, finalement, il y a beaucoup de grands hommes petits. D'abord, le plus petit de tous, Mozart, 1m51. Et puis Napoléon, Beethoven, Victor Hugo, des petits massifs, Picasso et voici Stravinsky. Plus tard, un jour, il me confia son passeport pour une démarche et je lus taille 1m57. Le lendemain, je reviens à l'hôtel avec l'argent. Le concierge appelle la chambre, personne. Venant du bar, j'entends deux voix sonores, je m'approche. Il est là, dans un coin, avec un ami. Il me le présente, Pierre Soufchinski. Ils en sont à leur troisième whisky, peut-être au quatrième. Aussitôt, on m'en sert un. Ça rigole comme des larrons en foire. On trinque. Monsieur Stravinsky verse la moitié de son verre dans le mien. J'appris par la suite qu'il était un grand amateur de whisky et que certains l'appelaient Stra-whisky. Mais la tête me tourne, je descends aux toilettes et je restitue tout dans le lavabo. Alors paré à la porte, Pierre Soufchinski. Il me réconforte, m'apporte une chaise. Tout cela avec une chaleur paternelle. Dès lors et pendant 12 ans, Soufchinski allait être pour moi le meilleur des hommes, le plus généreux. C'est grâce à Pierre que je devins de plus en plus proche des Stravinsky et que les relations devinrent familières, je dirais même familiales. Qui était Soufchinski ? C'était probablement le meilleur ami de Stravinsky avec Balanchine. Il avait connu en 1922 à Berlin. En 1936, il avait aidé Stravinsky à rédiger le livre poétique musical. Ils écrivaient beaucoup tous les deux. Pierre était un philosophe et musicologue russe habitant à Paris. Marié, il avait peu d'argent. Il avait un rôle central dans les milieux d'avant-garde avec Jean-Louis Barrault. Il créa le domaine musical, mettant en valeur le jeune Boulez, etc. Deux jours plus tard, le compositeur Michel Philippot m'appelle. Je sais que M. Stravinsky est à Paris. Je viens d'écrire un livre sur lui. Merci de lui remettre et de me dire ce qu'il en pense. Philippot est très influencé par sa femme, qui est une psychanalyste convaincue. Résultat, selon lui, le talent de Stravinsky n'est dû qu'à l'influence génétique de son père, à celle de sa mère et à son sang russe. Je dépose le livre à l'hôtel Berkeley. Le lendemain, Soufchinsky m'appelle. Je dîne ce soir avec lui. Venez nous rejoindre. Il est là avec Pierre, Vera et Bob Kraft. Monsieur Stravinsky commence par me dire « Ne dites jamais que je suis à Paris, j'y suis toujours incognito. » Je l'interroge sur le livre, il l'avait lu, il dit « Comme c'est curieux, quand quelqu'un écrit un livre sur moi, après quelques pages, je m'aperçois qu'il écrit un livre sur lui. » Et il ajoute « Le meilleur des livres qu'on peut écrire sur moi, c'est un catalogue de mes œuvres. » Grâce à Pierre, la conversation devient tout à fait décontractée. Vera est charmante, charmeuse, un corps lourd, elle est encore jolie avec un beau sourire. Elle sera toujours comme ça. Bob, peu bavard, souvent coincé, on sent qu'il préférait être au Moulin Rouge plutôt qu'avec des personnes âgées. Monsieur Stravinsky revient sur le sujet. Pourquoi le joue-t-on si peu à Paris? Pierre dit, c'est que nous avons un ministre de la Culture, André Malraux, qui n'aime pas la musique. Alors, dit Stravinsky, il ne faut pas qu'il soit ministre de la Culture, il faut qu'il soit ministre de l'Agriculture. Il parle comme ça, lentement, d'un air accablé par les événements, et il s'arrête, confus, avec une lueur de malice dans les yeux. Pierre disait que je l'imitais bien. Pierre l'amène à évoquer les années passées en Suisse pendant la Première Guerre. Vous savez, dit Pierre, en Suisse, Igor a connu des gens étonnants. Freud. Stravinsky prend un air apeuré. Rodin, Igor, quel souvenir vous gardez de Rodin?
Il avait les mains molles. Je l'ai revu 2 ans plus tard, il avait encore les mains molles. Et puis après, je ne l'ai pas revu parce qu'il était mort.
Et Lénine?
Il était très timide.
Vous savez, dit Pierre, qu'en 1913, Lénine vivait à Paris, il n'avait pas le sou et il travaillait comme valet de chambre. Stravinsky dit, sur le ton de la plus grande évidence,
Lénine était sûrement un excellent valet de chambre.
Le lendemain, comme nous le ferons chaque fois, Pierre et moi, les accompagnons à Orly où ils s'envolent pour Dieu sait où, toujours un nouveau voyage. Peu après, nous sommes en juin 1959, arrive à mon bureau un jeune chorégraphe débutant qui faisait avec ses 8 danseurs des petits ballets d'avant-garde au Théâtre de l'Étoile. Il s'appelait Maurice Béjart. On se connaissait depuis quelque temps. Il dit, tu sais ce qui m'arrive ? Il crée à Bruxelles une compagnie de 40 danseurs et ils m'ont demandé de la diriger. Ah, ben c'est formidable. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire le sacre du printemps. Quoi? Ça va pas bien, non? Toi, le sacre? Balanchine n'a pas osé le faire, Robbins non plus, Martha Graham non plus. Tais-toi, tu n'y connais rien, donne-moi les disques. Bon, voilà, Markevitch, c'est le meilleur. Et les autres? Il s'en va avec 4 ou 5 disques. Je me souviens avoir dit à la secrétaire, ce petit prétentieux, il va se casser la figure. Le ballet est créé à Bruxelles en décembre 59. Je n'y vais pas. La première est donnée devant un public de notables. Le roi est là. C'est un scandale. Le sac de Béjart célébré le printemps par un grand accouplement sexuel final. Les spectateurs se voilaient la face. 3 mois plus tard, je vois le ballet à Paris au Théâtre des Nations. Je suis fasciné, émerveillé. Et puis c'est un triomphe. Peu après, au bureau, coup de téléphone.
Allô, c'est Stravinsky. Est-ce que je vous dérange?
Par la suite, chaque fois qu'il appelait comme ça, ça commençait toujours de la même manière. Vous imaginez, au milieu de l'agitation du bureau, la secrétaire qui vous dit, sur la 2, monsieur Stravinsky. Et vous décrochez, vous entendez.
Allô, c'est Stravinsky. Est-ce que je vous dérange?
Il annonce qu'ils arrivent tel jour, telle heure. Il confirme par télégramme. Je crois qu'on va voir un télégramme. Voilà, il confirme son arrivée et il dit « Have Don Perignon ready ». Et nous avons, je pense, oui, on va aller chercher à Orly. Quoi, vous avez aimé des... Voilà, on est à Orly, là, en train d'aller le chercher. Il y a 3 photos. Ça, là, ils prennent la limousine. Et après, les voilà tous les deux dans la voiture. Bon. J'en ai cherché à Orly. Embrassade, effusion, la voiture démarre. Et alors, oui, le puritain M. Stravinsky, alors que la voiture a démarré, demande sur un ton accablé par les événements. « Qu'est-ce que c'est que ce petit jeune homme qui m'a pris mon sacre ? Il paraît qu'à la fin, ils font tous l'amour sur la scène. » Alors, mais non, dit Pierre, ce n'est pas ça l'important. C'est un grand ballet avec ce jeune garçon Béjart. C'est très réussi. Mon sacre, c'est une jeune fille qui danse au milieu des vieux sages jusqu'à la mort. Vous comprenez, dans ma musique, il n'y a pas de sexe. Pierre se penche vers moi et dit, elle en est pleine. Il faut interdire, je vous ordonne d'interdire. Cette fois, le séjour est bref, 2 jours, ils repartent. Je demande à Pierre, qu'est-ce que je dois faire, moi ? D'autant plus que ma direction de Londres ne dit rien. Ben, laissez courir, je vous soutiens. Et les représentations s'enchaînent, et c'est partout le triomphe. 3 mois plus tard, Orly, ils arrivent. À peine étions-nous assis sur le banc pour attendre les bagages, Stravinsky s'exclame, catastrophé,
« Est-ce qu'ils font toujours l'amour sur la scène ?»«
Écoutez, dit Pierre, ce ballet, c'est un succès fou partout. Et puis, vous gagnez beaucoup d'argent. » Alors, silence, Stravinsky baisse la tête. Pierre ajoute, « Ce sac de Béjart va entrer à l'Opéra de Paris. C'est très simple, Igor. Vous n'avez qu'à venir le voir, vous jugerez. » Pendant 4 ans, on essaya. Une fois, ça ne tombait pas bien avec les dates. Une autre fois, il était enrhumé. Une autre fois, c'était d'accord, tout était prêt. La limousine, la loge, 19h, coup de fil.
Je ne peux pas venir parce que j'ai la colique.
Enfin, il vint, c'était le 8 novembre 1968. J'eus la joie inoubliable de monter les escaliers de l'opéra en le tenant par le bras, évidemment incognito. Derrière suivaient Vera, Pierre et Bob. Mais il avait bu. Il se mouchait tout le temps, on était loin de la scène. Bref, il ne vit pas grand-chose. Finale, triomphe. Dans la loge, nous, on gardait le silence. Personne n'osait l'interroger. Redescendre des marches de l'opéra, j'entre avec lui dans la voiture et je me risque.
Alors, maître Beck, qu'en pensez-vous ?
Alors, il a ce mot tout à fait stravinskien.
Finalement, dans ce ballet, ce qui est gênant, c'est la musique.
Dans ces années-là, les 3 Stravinsky s'arrêtent donc à Paris tous les 4 ou 5 mois, une 8aine de jours, sur le chemin de leur voyage incessant. Lui adore bien manger, on va incognito dans des bons restaurants populaires, il boit et s'empiffre. Toute sa vie, il a été malade, début de tuberculose, de grippe espagnole, de typhoïde, mais il s'en est toujours sorti. Et il disait, j'ai une mauvaise santé de fer. Il se plaignait toujours, il aimait se plaindre. C'était parfois surréaliste. Alors maître, comment ça va ?
J'ai mal à la jambe droite, et puis aussi à l'autre jambe, et puis aussi à la 3e.
Un soir, on demande, où allons-nous dîner ? Il répond, au Plaza Athénée. Eh bien, pour ce qui est de l'incognito, on allait être servi. C'est plein à craquer, les Stravinsky attendent devant les toilettes. Ils me disent, allez voir qui est là. Je reviens. Je dis, là, tout de suite, il y a Marcel Achard, Stravinsky le connaissait. Il dit, c'est bien difficile d'être le premier par ordre alphabétique. Et je dis, plus loin, il y a Arthur Rubinstein. Silence. Après bien des années de camaraderie entre deux, il y avait eu un claque. Stravinsky avait dédié une petite œuvre à Rubinstein qui ne l'avait jamais jouée. On entre dans la salle, chuchotement de table en table. Incroyable, c'est lui. Il ne salue pas Rubinstein. On s'assoit et je lui demande « Quel est votre pianiste préféré ?»« Rachmaninov. » »« Mais pourquoi non ?»« Parce que c'est le seul, quand il joue, qui ne fait pas de grimaces. » »« Et Horowitz, vous l'admirez ?»« Ben, j'ai pas le temps, il joue trop vite. » À part, je demande à Kraft « Mais alors, quel pianiste il aime ?» Bob dit le nom d'un jeune homme totalement inconnu, Glenn Gould. Début 1982, il va avoir 80 ans. C'est à cette occasion que Khrouchtchev va l'inviter à venir revoir sa Russie natale, qu'il avait quittée en 1914 et qu'il n'avait donc jamais revue depuis 48 ans. Stravinsky hésite. Pierre est totalement contre ces affreux soviets. N'oublions pas que sous Staline, pendant des décennies, toutes les histoires de la musique publiées en Russie ne mentionnaient pas le nom de Stravinsky. Finalement, Stravinsky accepte. Il brûle d'envie de revoir sa terre, sa ville, la tombe de son père. Pendant 3 semaines, il va être grandement fêté, concerts, hommages, réceptions. donc, on arrive à l'hôtel, Hera va se coucher, Bob s'en va, et Stravinsky est sur le coin de son lit, et il nous raconte, on était quatre, avec Pierre et sa femme.
Ils ont été très gentils. Un soir, l'Association des compositeurs soviétiques a donné un grand dîner en mon honneur. Le président est un compositeur de troisième catégorie, parce que là-bas, ils n'ont pas de quatrième catégorie.
Alors, le récit continue en russe. Après quoi, il est 11 heures du soir, la femme de Pierre s'en va, et Pierre demande, alors, on va dîner tous les trois. Et Stravinsky dit, au Fouquet's. Alors, on sort, il pleut beaucoup, je lui donne mon imperméable, qui est trop grand et traîne dans la boue. On monte dans la voiture de Pierre, une vieille deux chevaux minable. On arrive devant le Fouquet's, mal fagoté, dégoulinant, ils ont l'air de deux vieux bohémiens. Le voiturier hésite à prendre la voiture. On entre. Tout le monde regarde. Qu'est-ce que c'est que ces deux vieux pauvres types? Je demande une table au maître d'hôtel, il n'y en a pas. Stravinsky se met à parler fort en montrant une table avec sa canne. Le majordome me demande, dites à ce monsieur de se calmer. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, autrefois je dînais souvent là, dans ce coin, avec Diaghilev.
Mais enfin, qui c'est ce monsieur?
C'est monsieur Igor Stravinsky. Oh, pardon, mon Dieu, excusez-moi, pardon, pardon. Et dans l'instant, on trouve une grande table au premier étage. Et alors, au dessert, le maître d'hôtel demande obséquieusement, « Maintenant, maître, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Et il répond, « Tout sauf l'addition. » Alors, parlons du sujet de Stravinsky et l'argent. On a souvent dit qu'il était avare, pingre, grippe-sou. Je pense le contraire. Il invitait souvent et toujours grandement. Il n'était pas avare, il était avide. Et il avait des raisons de l'être. Déjà, pendant la Première Guerre, il a peu pour vivre. Une femme malade, quatre enfants. Pendant quatre ans, il n'y a pas de droit d'auteur. Un jour, en 1920, à Paris, à son domicile, on sonne. C'est un vieux bonhomme qui dit « C'est moi qui a composé, elle avait une jambe de bois. Vous avez mis ma musique dans votre ballet, vous me devez de l'argent. » Et Stravinsky fut obligé de payer. Un jour, arrivant d'Hollywood, il dit à Pierre
« En Amérique, les impôts sont énormes. Ils me prennent 90%. »
Pierre dit, « Mais non, allons, Igor, c'est pas 90%. »
« Je crois que vous avez raison, c'est 95. »
Sachant cela, pour rire, le directeur CBS lui envoya un jour un code des impôts. Il lui répondit, « Merci, c'est un livre très émouvant. Je pleure à chaque page. » En début de carrière, il avait écrit une petite pièce pour piano intitulée « Les cinq doigts », édité par Chester Londres. Un jour, le directeur de Chester me demande d'arranger un rendez-vous à M. Stravinsky. Le directeur de Londres arrive et dit, « Cher maître, je voudrais que vous fassiez une orchestration de cette pièce, Les Cinq Doigts. » « C'est possible, mais c'est du travail. »« Bien sûr, maître, combien l'estimez-vous ? » ?»«
Oh, 10 000 dollars. »
M. Gibson, le directeur, devient blanc, balbutie et finit par accepter. Il s'en va. Stravinsky me dit, « À ce prix-là, j'aurais dû lui vendre mes 10 doigts. » Il ajoute, « Être cher, ça rassure. Avare, non, je l'ai vu, à plus de 80 ans, donner un chèque de plusieurs millions d'anciens francs à l'un de ses fils. Il se sentait bien à Paris, incognito, sans journaliste, sans obligation. Il ne regardait jamais la télévision. Bon, il lisait un peu les partitions, il apportait toujours des livres. Je lui ai offert le neveu de Rameau. D'ailleurs, je pense que vous avez sa petite carte. Je lui ai offert le Candide de Voltaire. Et puis, un jour, je lui ai offert un livre sur Paul Klee. Vera s'exclama, « Quelle bonne idée, Igor, c'est le peintre que tu préfères, n'est-ce pas ?» Et il me dit à voix basse, « Comment peut-on dire un seul nom ?» Évidemment. Bientôt, j'ai compris que mes cadeaux alourdissaient ses valises, alors je me mis à lui offrir de temps en temps une gravure, pas un premier tirage, parce que c'était de ma poche, mais enfin, c'était quand même Durer, Watteau, Chagall, etc. Bon, ben, en effet, Pierre Soufchinski amenait de temps en temps Boulez, des jeunes compositeurs. Ah oui, un jour, Pierre amena Jean Genet, qui demanda de rester seul avec le maître. Quand il redescendit de la chambre, Pierre dit à Jean Genet, « Alors, eh bien, je comprends maintenant pourquoi, dans l'histoire du soldat, il y a le diable. » Cette fois, c'était un jour de mai, temps superbe, fin de matinée. Oui, mais tout ça, c'était trop long, je pense. Disons qu'en deux mots, on a déjeuné en plein mois de mai, il faisait un temps superbe au Berkeley de jour en terrasse, et il y avait une jeune fille délicieusement jolie qui avait une robe rose, toute habillée de rose. Alors chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, il me disait « Faites venir la jeune fille rose ». Et il lui faisait des compliments. Et il était comme un dandy qui aurait eu 40 ans. Et à la fin, il lui dit
« Mademoiselle, vous êtes si jolie que j'ai peur que quelqu'un vienne vous déranger cette nuit. »
Oui, pendant le déjeuner, nous avions parlé de Bach,
qu'il adorait. Et c'est lui qui m'avait dit, quelque temps avant, « Il faut écouter les cantates de Bach. »
Alors je lui ai dit que j'avais écouté les cantates de Bach.
Et vous savez, je lui ai dit « Vous savez, moi, si j'aime les cantates de Bach, c'est à cause de vous. » Il me dit « Non, c'est à cause de Bach. »
Je venais de me marier avec Claire Mott dans ce Étoile de l'Opéra de Paris. Entre autres, elle avait dansé 3 ballets de Stravinsky, Rossignol, Renard et L'Oiseau de Feu. Vera et son mari, voulant connaître Claire, nous invitèrent un soir à dîner. On était tous les 4. La luxueuse suite au Ritz, Pierre n'était pas là. La soirée fut délicieuse, Vera chaleureuse, lui versant à plusieurs reprises la moitié de son verre dans celui de Claire en disant « À la belle Claire !» Avant de passer à table, il s'était isolé avec elle sur le sofa et lui raconta des souvenirs, entre autres celui-ci que Claire me raconta. Je pense que ça vaut la peine que je vous le raconte. Mai 1913, répétition avec piano du Sacre du Printemps au Théâtre des Champs-Élysées. On en a parlé. Nijinsky est sur la scène avec les danseurs. Stravinsky est dans la salle vide, suivant sur sa partition. À un moment, la chorégraphie boite. Les danseurs trébuchent, ils sont perdus. Stravinsky arrête tout et s'écrie « Václav Nijinsky, combien comptez-vous là ?» Nijinsky, depuis la scène, « Igor Fedorovitch, je compte 3. » En effet, c'est 3. On reprend. Arrivé au même endroit, ça boite encore. Stravinsky arrête et demande « Václav Nijinsky, combien comptez-vous là ?»« Igor Fedorovitch, je compte 3. » « Mais comment comptez-vous 3 ?»« Eh bien, 1, 2 et 3. » Bref, il aime la conversation, c'est un de ses plaisirs. Il aime bien égratigner. Ah oui, je lui dis un moment. Hier soir, j'ai écouté le martyr de Saint-Sébastien de Debussy. Ça m'a beaucoup ennuyé. Il me dit, le martyr, c'est pour les oreilles. Enfin, il y a toujours ces jolis mots et ces coups de griffe. Alors, là, j'arrive vers la fin. Nous sommes en 1970, en septembre, 18 mois avant sa mort. C'est l'après-midi. Il appelle. Veuillez m'apporter de l'argent. J'accours. Au Ritz, il est seul. Vera et Bob sont sortis. Complet silence. Il est bien habillé. Lentement, il va dans sa chambre et revient, un manuscrit à la main. C'est mon requiem. Je suis en train de le terminer. On le jouera à mon enterrement. Il tourne les pages, les caresse. Mon requiem. Mes amis ne veulent pas qu'on en parle. Mes ennemis l'attendent. Il est assis sur le bord du canapé, tout penché en avant, courbé sur ses pages. Je vois sa tête baissée devant moi, son crâne avec ses rares cheveux bien coiffés. La fenêtre est ouverte et de l'autre côté de la place Vendôme, exactement à l'opposé, j'aperçois au premier étage la chambre où est mort Chopin. Il parle comme s'il était seul. Je regarde ce crâne. Je pense à tout ce qui en est sorti. Cet homme, si on veut le définir, il faut dire abondance de vie. Quelques jours plus tard, Bob me dit que Stravinsky a découvert au Ritz, en haut, dans les combles, un vieux piano et que tous les matins, il y joue du Bach. Les locataires de la chambre du dessous ont déposé une plainte chez le concierge. Il y a un vieux bonhomme qui tape sur un piano, c'est pas possible. Et si on leur avait dit, vous vous rendez compte, tout près de vous, Stravinsky joue Bach. Alors peut-être aurait-il répondu, qui c'est Stravinsky? Et peut-être même ils auraient demandé, qui c'est Bach? Alors, les derniers temps, je vais vers la fin, les Stravinsky songeaient à s'installer à Paris. Vera me demanda de chercher un appartement à acheter, mais il était bien tard. Il avait 87 ans. Il marchait de plus en plus difficilement. Novembre 68, ils débarquèrent à Paris encore une fois. C'est l'accueil à Orly. J'avais préparé le fauteuil roulant. Le lendemain soir, Pierre est pris par ailleurs. Vera appelle, venez dîner. Igor ne va pas bien. Je suis surpris de le trouver en pyjama, un béret sur la tête. Nous sommes tous les 3. Il est affaibli. Nous passons à table, il parle peu, il mange, il dîne en pyjama avec son béret. Trois jours plus tard, c'est le départ, l'aéroport embrassade, et le fauteuil roulant disparaît derrière une porte. Pierre et moi, nous montons sur la terrasse. Plusieurs avions décollent. On ne sait pas dans lequel ils sont. Ils disparaissent dans les nuages. Le cœur serré, sans parler, je sais que c'est la dernière fois. Sur le chemin du retour, je demande à Pierre, Stravinsky est-il toujours aussi religieux ? Plus que jamais. Et vous, Pierre, croyez-vous en Dieu ? Alors Pierre a eu cette phrase qui continue de me troubler. D'où voulez-vous que nous vienne cette soif que nous constatons en nous de connaître toujours davantage ? Dans les mois qui suivirent, il fut hospitalisé en Suisse, où Pierre alla le visiter plusieurs fois. Il me rapporta que les Russes avaient envoyé deux hommes qui proposaient avec insistance que Stravinsky soit enterré à Saint-Pétersbourg. Sa tombe était prévue juste à côté de celle de Tchaïkovski. Ce fut un refus. Stravinsky dit sa volonté d'être enterré à Venise, au cimetière San Michele. Pierre m'annonça bientôt que son si cher ami avait été transporté dans un hôpital de New York. Nous sommes le 15 avril 71. Moi, je suis dans un studio. On répète justement un ballet de Stravinsky. Quelqu'un arrive. Stravinsky est mort. Le soir, TF1 modifie ses programmes et projette l'oiseau de feu. Claire danse. Trois jours plus tard, les télévisions du monde entier retransmettent l'enterrement à Venise. Venise. Venise de toutes les couleurs, riche de tous les styles. Venise qui, pourtant, ne ressemble à aucune autre. Venise au beau visage et Venise masquée. Venise des palais et Venise musique. Venise pulcinelle au manteau d'Arlequin. Venise capriccio. Venise oiseau de feu. Venise en robe longue et Venise opéra. Venise festival. Venise carnaval. Venise oratorio et Venise prière. Venise barcarolle et gondole funèbre. Venise pour un jour. Venise pour toujours. Venise pour les noces. Venise pour la mort. C'est vrai, je pense à lui souvent. Ce soir, je sais, il dort à Venise.
Vous venez d'entendre la communication de Mario Bois, intitulée « Près de Stravinsky », prononcée en séance à l'Académie des Beaux-Arts le 6 février 2013.